Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité d'ONU Info Genève. Plus de 400 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année, dont la moitié est conçue pour n'être utilisée qu'une seule fois, et près de 17 tonnes de ce plastique sont déversées dans les océans chaque minute, avec un impact considérable pour les espèces marines. Voilà quelques chiffres qui montrent l'ampleur du défi à relever dans le domaine de la lutte contre la pollution plastique. La communauté internationale semble enfin mettre la question des océans au cœur de l'agenda diplomatique. 175 pays se sont réunis il y a quelques jours à Paris pour des négociations tendues autour d'un traité contre la pollution plastique. Et l'année dernière ont eu lieu la conférence sur les océans à Lisbonne et le One Ocean Summit à Paris. La société civile se mobilise aussi et met en œuvre des projets novateurs pour lutter contre la pollution plastique. C'est le cas d'Yvan Bourgnon, skipper franco-suisse de renom, qui a fondé l'association Sea Cleaners, dont le projet phare est la construction du Manta, un géant des mers contre la pollution. De passage à Genève, Yvan Bourgnon a fait un détour par notre studio à l'occasion de la Journée mondiale des océans. C'est notre invité cette semaine. Yvan Bourgnon, bonjour.
Bonjour.
Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on est très heureux de vous accueillir ici dans nos studios au Palais des Nations. Alors, vous qui sillonnez les océans depuis l'âge de 8 ans, expliquez-nous comment vous les avez vus évoluer depuis toutes ces années.
Bah, en fait, j'ai eu cette chance d'avoir beaucoup de plaisir avec les océans et de naviguer depuis l'âge de 8 ans, début des années 80, avec des océans relativement propres, hein, pas de sacs plastiques, aucun souvenir de tout ça. Et puis, ça a commencé par des collisions avec notamment des conteneurs pendant mes compétitions. 3 bateaux quasiment détruits partiellement à cause de ces conteneurs. Ça a commencé à m'agacer sérieusement, à la fois de laisser encore une épave supplémentaire sur l'eau et de voir que la mer a été polluée de ces 100 000 conteneurs qui ont été jetés à la mer depuis 1950. Et après, un tour du monde en catamaran de sport, à ras de l'eau, avec une toute petite coque de noix, entre 2013 et 2015. Et là, je fais vraiment face, le long des côtes indonésiennes, du Sri Lanka, des Maldives, au plastique, qui sont vraiment omniprésents dans mon quotidien pendant près de 2 mois. Et là, je prends conscience vraiment de la dégradation, du fait que c'est ma génération, ça s'est passé dans les 35 dernières années, et que waouh, et qu'on est très peu à voir ça, quoi. Il paraît qu'il n'y a qu'une personne sur 100 sur cette planète qui va une fois dans sa vie sur la mer. Et moi-même, il a fallu que j'attende 2014 pour constater vraiment le cœur du cyclone sur cette pollution des plastiques.
Oui, c'est ça, les chiffres sont impressionnants. Selon vos données, 17 tonnes de plastique sont déversées dans les océans chaque minute. C'est incroyable.
Ah bah, c'est phénoménal, hein. Et puis ce qui, moi, m'effraie le plus, c'est que la production de plastique est exponentielle. On parle, dans certaines hypothèses, de 10 fois plus de plastique produit sur la planète en 2100 et probablement 10 fois plus de plastique dans les océans. Donc, quand on voit les chiffres aujourd'hui, il y a de quoi se préoccuper pour la suite.
Alors, on va venir à votre projet, hein. C'est dans ce cadre-là que vous avez décidé, alors, un projet extraordinaire, de construire un navire qui va permettre de récolter des déchets plastiques. Vous pouvez un peu expliquer ce projet ?
Tout à fait. Donc, le réflexe, tout de suite, c'est d'essayer de faire de la sensibilisation pour fermer le robinet et faire en sorte que les gens ne jettent plus jamais les déchets dans la nature. Mais très vite, moi, quand on a été dans ces pays-là, on a vu que ce n'était pas suffisant, en fait. Que la sensibilisation ferait son effet dans certains pays dans 10 ans, dans 30 ans, dans un siècle. Et donc, par rapport à ça, on s'est dit, mais il faut aller aussi collecter les déchets, alors non pas au milieu des océans, mais dans les embouchures des fleuves, dans les rivières, dans les mangroves, etc. Et là, ça nous a donné tout de suite l'idée de créer des bateaux qui vont aller dépolluer les océans et faire en sorte que ces plastiques ne partent pas justement dans le fameux certain continent au milieu des océans, parce qu'après ils se désagrègent en microparticules, et là c'est la mission impossible, il faut tamiser toute la mer. Et donc voilà, ça fait 7 ans qu'on travaille là-dessus. On a mis au point un grand bateau, le Manta, qui fait 56 mètres de long et qui va pouvoir collecter à grande échelle les plastiques des océans. Il sera mis à l'eau pour le premier en 2026. Et on est très heureux de voir que ce bateau, il a évolué, parce qu'il ne fait pas que collecter. Il embarque 8 à 12 scientifiques à bord qui vont analyser chaque morceau de plastique qui remonte à bord. Il fait des opérations de sensibilisation parce qu'il fait escale une semaine par mois dans un port différent à chaque fois. Et donc, ça va être le moment idéal pour utiliser ce bateau comme un porte-drapeau et vraiment véhiculer des images très fortes pour dire, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est vous mettre des bateaux comme ça à disposition pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais après, ce qu'on veut, c'est travailler avec vous à terre pour que le problème soit résolu à la source. Et donc, on va mettre autant d'énergie sur terre que sur mer pour vraiment tarir le problème à la source au bout d'un certain délai.
Alors concrètement, est-ce que vous pouvez expliquer, pour qu'on s'imagine un peu comment va fonctionner ce bateau qui va, vous l'avez dit, qui va bientôt, en tout cas en 2026, qui va être sur les océans?
Alors on a déjà notre premier petit bateau qui fonctionne déjà. Il y en a à Bali, il y en a trois autres en construction. Donc on sait déjà à peu près les collègues qu'on peut faire réaliser. Pour le Grand Manta, lui, en fait, il a vraiment des tapis roulants entre les coques qui fait remonter les déchets à l'intérieur. On a des filets de surface qui piègent pas les poissons, mais uniquement les plastiques, et qui permet en fait de collecter sur une largeur de 66 mètres de large. C'est l'équivalent du terrain de rugby du Stade de France, quoi. C'est une largeur incroyable et qui va nous permettre de collecter massivement. Et puis après, on a une usine de traitement de déchets à bord du bateau qui peut vraiment traiter 90% des plastiques qu'on remonte à bord. Et ça, c'est génial parce que ça nous évitera des allers-retours, évidemment, qui servent à rien pour ramener les déchets à terre. Et on va se servir de l'énergie qu'on fabrique avec ces plastiques pour alimenter en fait le Manta, le bateau lui-même, si bien que c'est un bateau qui va utiliser finalement l'énergie du vent, parce que c'est un bateau à voile, l'énergie du soleil et l'énergie du plastique pour le faire fonctionner, parce qu'il y a quand même 36 personnes à bord qui vont s'activer jour et nuit pour collecter ces déchets à grande échelle. Ouais.
Alors le Manta, c'est votre projet phare, hein, mais vous le dites, hein, depuis de nombreuses années, vous vous battez pour sensibiliser les gens pour les océans.
Bah oui, tout à fait. L'association compte déjà 2500 bénévoles, 14 délégations régionales, une présence d'abord qui a été sur The Sea Cleaner Suisse, et puis maintenant aux Émirats, à Bali, en Espagne, dans des tas de pays. Donc on est très heureux de ce développement et on a besoin de voir le plus grand nombre, en fait, parce que certes, les industriels ont leur rôle à jouer, mais si nous tous, citoyens, on doit comprendre qu'on doit absolument supprimer le fait de consommer du plastique dans le supermarché, parce que c'est ça qu'on retrouve malheureusement dans les océans. Et aujourd'hui, il y a quand même des alternatives intéressantes, surtout en Europe, avec le vrac, le verre, le carton. Et voilà, on peut faire le choix, en fait, de vraiment plus consommer ces plastiques. Et donc, le but, c'est vraiment d'aller dans toutes les écoles, les festivals de musique, la foire du Valais, le Paléo, tous ces grands événements grand public. Et pour ça, il nous faut des bénévoles. Donc voilà, on est très heureux d'en avoir beaucoup et il nous en manque cruellement.
Alors une lumière d'espoir aussi pour lutter contre cette pollution plastique, c'est au niveau des Nations Unies, ce sont les négociations en cours hein, au sein de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement d'un traité juridiquement contraignant pour lutter contre la pollution plastique, le Global Plastic Treaty. On va dans le bon sens, il y a une conscientisation.
Tout à fait. Moi, je pense que effectivement, les pays occidentaux ont pris conscience. Certains pays, comme la Chine, commencent à réagir. Donc, évidemment que ça bouge. On ne va pas dire le contraire. Mais ce qui est effrayant, c'est que la consommation explose, que l'Afrique va consommer de plus en plus ses plastiques, et que là-bas, on voit bien qu'il y a des pays, là, le temps de réactivité va être énorme. Ça va prendre des décennies avant qu'il y ait des systèmes de recyclage, des camions poubelles, des systèmes de poubelles. Et pendant ce temps-là, ils vont quand même consommer. Et les plastiques vont finir dans la nature. Il ne faut pas oublier qu'il y a 80%, 90% des plastiques aujourd'hui qui ont été produits depuis 1950 n'ont jamais été gérés. Donc tout ça, c'est des décharges publiques, c'est dans la nature, c'est dans le sol, c'est dans les océans. Donc vous voyez, pour inverser tout ça, ça va prendre un max de temps, en fait. Et ça, faut être pragmatique et dire, on fait, même quand on fera au maximum la sensibilisation et même quand on fera au maximum la collecte, en cumulant les deux, on aura toujours des plastiques encore trop dans l'océan. Donc, évidemment qu'on ne peut pas se passer de faire tout ça. Le problème aujourd'hui, c'est que en fait, le politique et l'institutionnel, il voit le plastique un petit peu comme on a vu le carton, le verre, le métal, en se disant, mais attendez, on a réussi à intéresser des industriels comme Veolia et Suez et d'autres à recycler et à trouver un business plan pour recycler ces matériaux. Ben, on va faire pareil sur le plastique. Et en fait, ils se mettent le doigt dans l'œil parce que le plastique, c'est très coûteux de le recycler, c'est très coûteux de le retraiter, et celui des océans encore plus. Donc le business plan, il n'existe pas. Donc à un moment donné, il faut traiter ça comme on traite la famine en Afrique. La famine en Afrique, c'est un coût, et on a mis des milliards pour résoudre le problème de la famine en Afrique depuis 70 ans. Et de la même manière, le plastique dans les océans et le plastique dans la nature, il ne faut pas rêver, les Veolia, les Suez ne vont jamais s'intéresser à ça. Ça ne rapporte pas d'argent. Donc il faut certes tarir le problème à la source, mais il faut que les ONG aient les moyens financiers pour vraiment agir sur le terrain. Et je peux vous dire, moi qui est dans ce milieu depuis 7 ans, les ONG ont des compétences incroyables. Par contre, elles ont des cacahuètes au niveau financier et au niveau des moyens pour aller sur le terrain.
Alors justement, les ONG ont été invitées à ces grands rendez-vous diplomatiques qu'ont été l'année dernière le One Ocean Summit en France et la conférence de l'ONU sur les océans à Lisbonne. Qu'est-ce que vous pensez de ces grands rendez-vous diplomatiques ? Est-ce que ça fait avancer la cause des océans ?
Ben, il n'y a pas le choix. De toute façon, il faut les faire, ces rendez-vous diplomatiques. J'étais au One Ocean Summit aussi à Brest. Et évidemment qu'il faut générer une gouvernance pour ces océans. Tout ce qui est au-delà de 12 000 des côtes, aujourd'hui, ça appartient à personne. Et il faut pouvoir dire, voilà, les déchets qui sont à tel endroit sur l'océan, ben, ça appartient à tel pays, à telle industrie, à tel truc. Et on va pénaliser les pollueurs et on va remonter à la source. Donc il faut organiser une gouvernance précise sur les océans. Donc il y a des gens qui travaillent dur pour ça, comme Catherine Chabot à l'Europe et d'autres députés. Et tant mieux, ils font leur boulot. Et ça, il faut que ça change. Alors, moi, ce qui m'inquiète juste, c'est que ça soit un peu comme les COP, c'est que ça prenne quelques décennies, quoi. Voilà. Et pourtant, on est quand même pressé. On a cette chance, en fait, sur les océans qui ne sont pas trop dégradés. Parce que autant la vie animale sauvage sur Terre, elle a disparu à 60% là, dans les 40 dernières années, autant sur mer, les océans sont quand même encore préservés. Donc justement, ce qui est encourageant, c'est qu'on peut les sauver. Mais si on ne fait rien dans les 30 prochaines années, bah voilà, il y a 25-30% des océans qui auront été dégradés définitivement. Et ça, c'est con d'y en arriver là.
Alors vous avez déjà évoqué la mobilisation aussi de la société civile, des ONG. Vous avez lancé l'hashtag « Ramène ton pote » à l'occasion de cette journée des océans. Pour sensibiliser un maximum de monde, il faut encore plus de monde autour de cette question.
Il n'y a rien de mieux que l'action. Quand on amène des milliers de personnes sur les bords des fleuves, sur les rivières, sur les côtes et tout, bah en fait, ce n'est pas seulement les centaines de kilos qu'on collecte. C'est monsieur qui va parler à mamie, qui va parler à ses petits-fils, qui va changer les habitudes chez lui. Et donc, toutes ces actions de collecte, de terrain, elles ont des répercussions énormes. Et c'est pour ça aussi qu'on veut faire ces bateaux, parce que ces bateaux vont montrer que des gens se mettent les mains dans le cambouis et vont collecter ces déchets. Les gens vont se dire à terre, mais si ces gens dépensent autant d'énergie et de temps à collecter, mais faisons attention déjà à la source. Voilà, donc ça va donner des envies de changement de comportement.
Alors certains skippers se mobilisent aussi, hein, vous, à votre manière, mais des skippers s'inquiètent aussi de la pollution engendrée par leur passion, hein, notamment avec l'utilisation de la fibre carbone. Certains ont été plus loin, comme Stan Turek, qui a décidé d'arrêter la compétition de haut niveau pour des raisons écologiques. Que pensez-vous de cette décision ?
J'ai pas suivi le dossier. Je respecte son choix. Après, moi, ce que je vois dans ce milieu-là, c'est que aujourd'hui, on n'a pas réagi encore. En fait, on est là à faire des petits essais sur voir s'il y a des composites qui sont un peu mieux que d'autres et tout. Mais je suis désolé, quand on a décidé de mettre des foils sur les bateaux IMOCA il y a 7 ans, la problématique écologique, elle était là et consciente depuis très longtemps. On sait, en plus, les foils, on sait que ça casse et que ça laisse des morceaux dans les océans. Je suis pas sûr que les gens regardent plus le Vendée Globe parce qu'il y a des foils sur les bateaux. Alors peut-être qu'on a gagné 2 jours sur un tour du monde de 70 jours. Oui, mais voilà. Mais est-ce qu'on avait vraiment besoin de mettre autant de carbone? Parce que c'est les épaisseurs de carbone et tout ça qu'il y a dans ces produits-là, elles n'étaient pas nécessaires. Voilà. Et donc, je trouve que là-dessus, effectivement, il est temps que ça réagisse, même dans notre secteur, parce qu'il n'y a pas de vraie décision raisonnable là-dessus. Quoi.
Il faut revoir la philosophie de ces compétitions.
Ben oui, à un moment donné, il faut se dire, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir la plus grosse, le plus grand bateau, le plus rapide, le plus machin ? Est-ce que la vitesse est vraiment ce qui fait rêver le plus ? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'on a vu des courses comme le Golden Globe. Voilà, ce qu'on veut, c'est voir des marins, en fait, qui sont sur la mer, qui sont en solitaire, certes, parce que ça fait rêver, et puis qui nous font rêver, qui partagent des aventures exceptionnelles. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir des bateaux qui sont à tout prix pleins de carbone ? Est-ce qu'on a besoin de faire évoluer les bateaux sans arrêt ? Voilà, est-ce qu'on peut pas, à un moment donné, créer une flotte de 25 bateaux et on dit voilà, pour les 20 prochaines années, ça sera ces 25 bateaux et c'est tous les mêmes et vous allez vous battre les skippers dessus. L'intérêt pour suivre le Vendée Globe, il sera le même. Il n'y aura pas moins de téléspectateurs, ça je vous le garantis.
Yvan Bourdignon, dernière question, un de vos mots d'ordre est de refuser la résignation. Alors selon certaines études, vous l'aviez dit tout à l'heure, la production de plastique devrait doubler d'ici 2040. Le combat continue ou ne fait que commencer ?
Bon, il ne fait que commencer, c'est sûr. Hein. Il n'y a que dans les derniers rapports du GIEC qu'on voit vraiment l'importance des océans. Il y a 10 ans, on disait encore, pour sauver le monde, il fallait sauver l'Amazonie. Et en fait, les océans, c'est un sujet qui débarque, qui arrive. En fait, l'océan absorbe encore beaucoup plus de carbone que la forêt elle-même. Et donc, on a un temps de réactivité qui est long. On sait depuis des décennies qu'il faut prendre soin de la forêt. Là, c'est tout neuf. C'est vraiment les océans, ça sort du chapeau. Oui, certes, il y a 10 ans, on commençait à se faire peur avec les plastiques. Mais là, maintenant, on sait même avec les scientifiques qu'il faut réagir à tout prix, quoi.
Yvan Bourgnon, un grand merci d'avoir accepté de répondre à mes questions à l'occasion de la Journée mondiale des océans. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait François Soubiguère, Adrien Messin-Carrère à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.